radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS le groupe Kors Spartimu. Bienvenue à vous, messieurs.
Merci. Merci. Merci de nous accueillir.
C'est une première pour vous d'être en Australie ?
Oui, c'est la première fois qu'on se déplace aussi loin pour une série de concerts et d'ateliers. Donc, première fois en Australie, on n'espère pas la dernière, malgré les difficultés quand même. Hein. C'est une longue entreprise. Mais on est tellement content de pouvoir faire la promotion de notre culture en cette ère si lointaine.
Peut-être je vais vous demander de vous présenter chacun et parler de votre parcours au sein du groupe. Peut-être commencer par vous, vous avez pris la parole en premier.
Alors, donc, je suis entre guillemets le chef de chœur, donc Frédéric Vesperigne. On peut déjà faire un petit tour de groupe et puis après parler
oui, absolument.
Un petit peu plus en détail. Donc le doyen.
Le doyen, le sage, le singe. Et
le sage.
Pierdo Innocenti, donc bon, moi ça fait quelques années, ils pourraient tous être mes enfants. Voilà, c'est très simple.
Alors on passe au deuxième fils.
Alors bonjour, Grégory Innocenti, le fils, le vrai fils.
Le vrai
doyen.
Fils. Je ne plaisantais pas.
Et donc merci de nous recevoir.
Bonjour, Philippe Lauré. Je ne suis pas le fils de Monsieur Innocent, parce que sinon on serait beaucoup. Je fais partie du groupe depuis bientôt 10 ans aujourd'hui, et j'avais connu d'autres groupes au Corse auparavant.
Comme
par exemple Iwachile Agrawon ou Kanta Populukus, un groupe très connu en Corse.
Alors bonjour, Laurent Moulet, je suis le plus jeune du groupe. Voilà, merci de nous recevoir.
Je reviens vers le chef d'orchestre, si je peux vous appeler comme
ça. Oui, c'est ça, le chef de chœur.
Kapellmeister. Parlez-nous de votre raison d'être et des buts principaux de ce groupe.
Alors, le groupe Spartimu, c'est avant tout donc, c'est une association, une association donc, de type loi 1901 qui a pour but, dans ses statuts, la promotion, la sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel corse et notamment de la polyphonie corse. Voilà, donc ça, c'est notre... dès les premières répétitions et dès les premières rencontres, notre but était de mettre en commun nos connaissances du patrimoine polyphonique corse pour le mettre au point, le travailler et le diffuser le plus loin possible. Et on dira qu'après 10 ans, c'est quand même pas mal réussi, puisqu'on arrive d'en être aussi lointaine.
Et comment ça se passe pour vous, pour promouvoir cette culture au sein de la Corse ?
Alors, au sein de la Corse, on dirait que c'est assez facile, surtout en saison estivale, puisque vous savez que la Corse est une île qui est très touristique. Il y a plus d'un million de touristes qui viennent la visiter, alors que nous sommes que 250 000, 300 000 habitants. Du printemps jusqu'à l'automne, les concerts s'organisent assez facilement.
En plein air ?
Surtout en église. Surtout en église par rapport à notre répertoire, par rapport au chant que nous travaillons et par rapport à l'acoustique aussi, qui nous accueille en ces lieux. Donc c'est vrai qu'on diffuse assez facilement notre répertoire. Après, en saison un petit peu plus tranquille, l'hiver, on se replie, on travaille, on répète beaucoup et on prépare la saison d'après.
Et pour ceux qui ne connaissent pas les polyphonies de Corse, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une idée de quoi il s'agit ?
La polyphonie corse, c'est un patrimoine qui a été inscrit donc, au patrimoine immatériel de l'humanité à préserver d'urgence, à l'UNESCO. C'est une forme de chant qui est endémique, qui est vraiment propre à la Corse, qui est due au fait que nous sommes en même temps une île et une montagne, une montagne dans la mer, et qui fait que toutes ces influences du bassin méditerranéen dans son ensemble, c'est-à-dire ça va donc du sud de l'Europe jusqu'au Maghreb, en passant aussi par la Grèce, par tous ces pays qui nous ont beaucoup influencés sur le plan musical. Et donc ça a donné ce répertoire et cette manière de chanter qui est vraiment typique, propre à la Corse et qui a été reconnue par des ethnomusicologues encore récemment. Il y a eu beaucoup de collectages qui ont été faits sur notre île. Et c'est ce qui fait vraiment notre spécificité, notre particularité.
Et comment ça se passe pour vous dans le reste de la France ?
C'est-à-dire au niveau
rencontre ? C'est-à-dire au niveau rencontre, au niveau concert ?
Il se trouve qu'en France continentale, la polyphonie corse a vraiment très bonne presse. Et il suffit d'organiser un concert pour que l'église soit pleine et pour qu'on ait vraiment un accueil terrible, chaleureux. Et c'est vraiment les gens sont vraiment friands de ce que l'on fait parce que c'est une musique qui vient de loin et qui parle à tout le monde, en fait. Voilà. En fait, elle fait appel un petit peu. On dit déjà que la musique et le chant font intervenir une partie du cerveau qui est le cerveau reptilien, primitif. Donc le chant et la musique parlent à tout le monde déjà. Et c'est vrai que notre forme de chant a cette particularité de toucher, quelles que soient les paroles, quelle que soit la manière souvent dont on chante. C'est vrai qu'elle touche beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on a un public qui est très nombreux.
Et cet héritage de père en fils, comment ça se passe pour vous ?
Cet héritage, déjà il faut savoir, pour ajouter ce que dit Frédéric, que la polyphonie corse n'est pas écrite. J'ajouterais aussi que ce qui fait qu'elle plaît à tout le monde, c'est que c'est une musique qui n'est pas considérée comme une musique savante, c'est-à-dire avec une codification, avec des notes, avec des partitions. Donc c'est beaucoup plus facile, bien sûr, c'est plus accessible. C'est un peu comme contempler un tableau sans besoin d'aller rechercher de quelle manière il a été fait. C'est uniquement ressentir les émotions. Et donc cette transmission s'est faite, et se fait toujours, de manière totalement orale. Et le principe, si vous voulez, c'est de donner toujours quelque chose et de ne pas ajouter. En fait, pas faire de création. Si on passe dans un côté créatif, ça n'est plus tout à fait la même polyphonie. Ça reste de la polyphonie corse, ça n'est pas la démarche du groupe. La démarche du groupe, c'est d'essayer de rester, non pas figé comme dans un musée, mais en tout cas, de donner le plus près possible de la réalité. Et on a des documents sonores qui datent du début des années 1925. On a des documents sonores qui nous ont permis, si vous voulez, en quelque sorte, de revenir un petit peu en arrière et de recadrer un peu tout ça pour se remettre comme c'était à l'époque. Voilà comment se transmet la tradition.
Et comment ça se passe dans les écoles en Corse ? Est-ce que les élèves apprennent, par exemple, les polyphonies corses ?
Il y a
un passage obligatoire.
Alors dans l'école d'État, non. Il y a la langue corse est optionnelle. Elle est obligatoire après en fonction de certaines filières. Donc ça c'est uniquement pour la langue. Mais pour ce qui est de la musique, elle est surtout enseignée par des associations, des écoles de chant qui se constituent avec beaucoup de bénévoles qui le soir après les cours réunissent les jeunes collégiens, les jeunes étudiants pour retransmettre notre patrimoine et pour faire en sorte qu'il soit toujours vivant.
Parlez-nous un petit peu des différents festivals internationaux auxquels vous participez. Vous avez la possibilité de voyager à travers le monde.
Oui.
Là, l'Australie, c'est une première, vous dites.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile pour nous, c'est-à-dire qu'on parcourt le monde pour chanter. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. on mesure...
Vous êtes des troubadours.
On mesure perpétuellement la chance que l'on a d'être invité uniquement pour chanter, pour faire de la musique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc les festivals qui sont à la recherche de groupes qui collent le plus, comme l'a dit Pierre Daud, donc à la tradition, à quelque chose qui est vraiment authentique. C'est vrai qu'ils font appel à nous pour essayer de restituer quelque chose qui on l'espère, le plus authentique possible.
On peut parler maintenant du parcours de ce groupe Spartimu. Vous avez quelques albums à votre répertoire. Le premier a été enregistré quelle époque ?
Le premier a été enregistré en 2009. En 2008, nous avons participé donc à notre premier symposium sur la polyphonie traditionnelle en Géorgie, donc au cours duquel nous avons fait énormément de rencontres, dont celles qui nous ont permis d'arriver ici en Australie. Nous avons rencontré donc le professeur Joseph Jordania, qui est professeur à l'université de Melbourne, donc géorgien d'origine, qui travaille maintenant en Australie et qui a participé à cette grande entreprise qui nous a amenés ici. Donc ça, c'était le premier CD en 2009. Nous n'étions pas forcément pressés d'en faire un directement dans la foulée, puisqu'un CD, c'est quelque chose quand même d'assez assez important à travailler. Donc on a pas voulu bâcler ça. Et donc nous avons attendu 2014 pour sortir le second. Donc ce sont deux recueils de polyphonie, essentiellement donc de polyphonie corse, profane et sacrée, mais aussi de quelques chants géorgiens.
Et c'est un travail à plein temps pour vous tous ?
Non, en fait, si il consiste en...
Vous faites ça comme un passe-temps
C'est plus une passion.
Ouais. Une passion.
Voilà, ouais. Un passe-temps, ça serait plus le bricolage, le jardinage. Là, on dirait vraiment, c'est une passion. On chante avec passion, on travaille avec passion et c'est quelque chose qu'on fait déjà toutes les semaines. Quoi qu'il en soit, on se réunit pour répéter, donc travailler le répertoire.
Dans les églises
De temps en temps en église, ouais. Donc dans des salles de répétition, mais c'est vrai que de temps en temps en église pour bénéficier de l'acoustique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous engage tout au long de l'année. Le temps de la préparation et des répétitions, et puis vient le temps des concerts et donc aussi d'enregistrement d'albums.
Vos premières impressions de l'Australie, vous avez déjà donné un atelier de travail.
C'est ça. Une trentaine de musiciens ou pas musiciens, voilà, donc des gens qui sont choristes, tout simplement, qui sont vraiment passionnés par le chant et qui font ça aussi un petit peu comme nous, donc en dehors de leur travail habituel, et qui sont venus, qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir pour apprendre nos chants. Donc des Australiens qui apprennent la polyphonie corse.
Et le premier contact a été pris parce qu'il y en avait certains. Et c'est là que c'est assez... C'est le principe du réseau fonctionne. Hein. C'est que la plupart des participants, enfin quelques-uns des participants, avaient déjà fait, ils nous connaissaient déjà, de Tbilissi, donc en Géorgie. Et si vous voulez, on continue à nous suivre et on était tout contents de faire les ateliers. Alors, pour répondre à votre question, l'Australie, j'ai dans l'été, là on a pris un taxi pour venir et je disais, on était ensemble et je disais qu'il semblait que c'est un pays où il faisait bon vivre parce que on sentait pas, bon ouais, ça fait 3 jours qu'on est là, hein, mais je veux dire, on sentait pas ce stress perpétuel qu'il y a à l'heure actuelle en Europe avec tous les problèmes que l'on connaît. Ici, on semble un petit peu détaché de tout ça. Je sais pas
plus si... relax, absolument, vous avez
absolument,
raison.
Voilà. Et on semble un peu plus détaché, déjà sur le visage des gens, ça se voit beaucoup, aussi bien dans la rue que dans les transports en commun.
Beaucoup de sourires.
Voilà, si vous connaissez Paris, si vous avez fréquenté les métros parisiens. Et donc voilà, pour vous donner le ressenti sur l'Australie, c'est un pays qui, enfin, à mon avis, ressemble exactement à l'idée qu'on s'en faisait. Quoi. C'est un très grand pays avec beaucoup de culture, mais les gens reçus avec beaucoup d'amabilité. Et un très bon commerce. On ne va pas faire de parallèle, hein, mais il y a fin janvier, on était aux États-Unis, on était à Chicago, et on dira que ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. On n'a pas la même approche. Voilà.
Et vos projets au-delà de cette tournée australienne et 2016 ?
En fait, les projets arrivent spontanément, comme ça. C'est vrai qu'au fil des rencontres, de nouveaux liens se tissent, d'anciens liens se consolident, et puis sans trop chercher finalement, tout arrive naturellement, hein, des invitations donc, comme celles que nous avons eues ici pour venir en Australie. C'est vrai que c'était un projet assez ancien et qui s'est concrétisé tout doucement, naturellement. Voilà, c'est vrai que donc on rebondit de concert en concert, d'atelier en atelier et de voyage en voyage.
On vous entend à travers toute l'Australie. Vous avez la possibilité de faire un petit séjour à la campagne. Quel est le message que vous auriez pour les Australiens qui nous écoutent, les francophiles surtout, qui apprennent le français et qui voudraient découvrir peut-être la Corse ?
Alors, très facilement sur Internet, et déjà on peut trouver donc tout un tas d'informations sur notre île, sur notre patrimoine, sur notre culture. Il faut vraiment s'intéresser à cette histoire particulière. Qui est la nôtre. Nous sommes une île et une communauté de destin avec une identité très forte. Cela fait que 250 ans que nous sommes français. Hein, nous sommes passés par sous le joug, entre guillemets, de beaucoup de royaumes. Hein, nous avons été espagnols, anglais, italiens, génois, donc grecs, romains. Donc c'est vrai qu'il faut s'intéresser de près à cette histoire qui est très très riche et qui fait vraiment la spécificité de notre culture.
Messieurs, je vous remercie d'être venus dans les studios de Radio SBS. Bonne continuation et à une prochaine fois en Australie.
Alors, nous l'espérons. Franchement.
Why not?
Why not?
Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.
Merci, merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.